Sobeuse.com. Rencontre par Marc Zisman.
Leonardo Garcia Alarcón.
Bonjour.
Vous avez publié il y a quelques mois chez Ambromet, qui est un peu l'une de vos maisons.
Une
de vos maisons. Un album consacré à Bach, qui s'appelle Bach Drama.
Oui.
Mais
c'est
un
ça.
Bach un peu particulier, on pourrait dire.
Oui.
Des dramas per musica, comme on dit. C'est des sortes
si.
De petits opéras.
C'est
miniature,
ça.
Un
c'est
peu.
Ça, exactement.
Vous avez enregistré avec notamment le chœur de chambre de Namur. Comment vous est venue cette idée ? Et parlez-nous un petit peu des spécificités justement de ces pièces
en fait,
de Bach.
On connaît très bien le Bach, moi comme claveciniste en fait, le Bach au clavecin, bien sûr, à l'orgue, toute l'œuvre vocale, mais surtout d'église. Mais pas beaucoup les autres pièces qu'il a composées en fait pour le Café Zimmermann ou pour des anniversaires. De ses amis, des professeurs à l'université ou des princes en fait. Cette musique, est presque la plus grande partie de cette musique, elle est perdue aujourd'hui. C'est-à-dire que les dramas per musica qui restent, en réalité, faisaient partie d'une grande activité des bars. On le sait grâce aux documents, mais aujourd'hui la musique n'existe plus. En fait, on a gardé les cantates d'église, même s'il y a une centaine qui sont perdues. Mais les dramas per musica, et surtout un des dramas per musica, a appelé mon attention parce que c'est d'une certaine façon un récit autobiographique de Johann Sebastian Bach. Il a réussi à faire avec son librettiste une histoire sur Phébus et Pan, qui est déjà dans la mythologie. En fait, c'est un combat des chanteurs, on dit, dans Virgile, mais pour Bach, ça prend une autre allure, en fait, c'est lui qui est Phébus, c'est lui qui est la musique courtisane, la bonne musique, la musique composée avec les règles de l'art, mais Pan, qui compose pour la forêt, pour les nymphes, c'est la musique populaire, c'est les nouveaux styles, c'est la musique à la mode, la musique que tout le monde aime, directement et sans réfléchir en fait. Alors lui, il se met vraiment à composer dans deux styles très très différents. Pain, c'est vraiment la danse avec des instruments populaires et avec un violon, exactement comme à l'opéra italienne. Et à Apollon, c'est vraiment un contrepoint extraordinaire à plusieurs voix avec une instrumentation d'une finesse. Dans laquelle Bach n'a même pas rêvé dans les cantates d'église. Et on voit que lui, il ressent, quand il a composé cela, une sorte de il ressent le malheur de ce qui va être, que tout le monde va chucher son art, la façon de composer en fait. Lui, il compose avec un art trop surchargé, on dit, trop ornementé. Et vraiment, il n'a aucune intérêt pour le public. C'est ça qu'il dit, c'est le critique de l'époque. Mais dans ses dramas per musica, surtout, lui, il oppose les deux grands styles de l'époque. Mais les dramas, c'est pour ça que j'ai voulu l'appeler comme ça aussi, les disques, c'est les drames de Bach lui-même. Parce que à la fin, après avoir entendu toutes les pièces, on ne sait pas quel style choisir. Parce que Bach compose tellement bien dans n'importe quelle forme, qu'à la fin, on est séduit par tout. C'est-à-dire, on est séduit par Phébus et par Pain.
Alors, justement, quand vous mettez le doigt sur des œuvres moins connues, ou oubliées ou peu connues, si on prend par exemple effectivement Bach, un des compositeurs les plus célèbres, un des plus enregistrés même aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas encore il y a si peu de temps, c'est finalement, ça. C'est devenu dans les modes aussi, on parlera peut-être après des modes aussi dans la musique, c'est intéressant, mais quand vous mettez le doigt sur des œuvres comme ça, c'est parfois ça peut être même aussi sur des compositeurs, vous avez enregistré des compositeurs totalement oubliés, que ce soit Giorgi récemment par exemple. Comment vous abordez ça dans votre démarche? Parce qu'évidemment, il y a la valeur de l'œuvre elle-même, comme vous l'avez décrit. Vous ne l'avez pas juste enregistré parce que c'était des œuvres peu connues ou oubliées.
C'est ça.
Vous avez bien décrit cet intérêt, cette qualité musicale.
En fait, la partition, elle me parle beaucoup. Au moment de recevoir une partition ou d'aller dans une église ou un archive, lire de la musique, j'ai une raison, a priori, aucune méfiance vers un compositeur, mais... Très vite, je peux comprendre les faiblesses d'une pièce, en fait. Ça soit dans les discours, ça soit dans la texture, ça soit dans le type d'écriture. Et comment cette pièce ne va vraiment pas passer vers un public aujourd'hui. Je pense qu'il y a des compositeurs qui sont justement oubliés, en fait, dans ces cas. Et beaucoup de musique d'église qui doit rester, devrait rester cachée, parce que vraiment, c'est une musique qui... qui est plutôt une pièce de musée, et des fois même pas avec une belle qualité dans l'écriture. Mais par exemple Giovanni Giorgi ou Michelangelo Falvetti, on a fait le Diluvio Universale, en fait, c'est des compositeurs qui, au moment de voir la musique, on ressent déjà soit la force dramatique, comme dans le cas de Michelangelo Falvetti pour l'oratorio, ou soit la grande capacité technique dans l'écriture des contrepoints, comme c'est Giovanni Giorgi. Et aussi, ça aide beaucoup de comprendre à quel point les œuvres de ces compositeurs étaient aimées ou pas à l'époque. Parce que, surtout dans les pays du sud de l'Europe, on se rend compte que le travail que les Nord a eu d'imprimer les pièces, par exemple de Mozart, de Bach, des grands génies, comme aujourd'hui on dit, imprimer sa musique a beaucoup aidé à qui on les connaisse aujourd'hui et qu'on connaisse les œuvres complètes. Au sud, il y a beaucoup de compositeurs qui n'ont jamais eu bénéficié même pas de l'édition d'une de ces pièces. Alors il y a tout un travail à faire sur les compositeurs du sud de l'Europe qui sont inconnus et aussi sur les compositeurs du nord de l'Europe qui ont eu un traitement par la musicologie du 19e siècle assez vague. Par exemple, beaucoup de pièces de Handel ou de Johann Sebastian Bach, comme ces dramas, ont été un tout petit peu apartés, ou même les Quodlibet de Bach, qu'on vient d'enregistrer aussi pour le label Ricercare. C'est des pièces qui ont été considérées des fois même comme des pièces douteuses. Johann Sebastian Bach, le dieu sur terre, le cinquième évangéliste, ne rigolez pas.
On a l'impression que finalement votre démarche, elle est entre deux. Il y a évidemment vos choix, vos goûts personnels, esthétiques, votre vision, votre approche, votre sensibilité, et en même temps une sorte de, presque de mission, de dire, voilà, ces pièces ont une véritable valeur, elles sont importantes, personne n'y touche, personne ne les a enregistrées. Vous êtes un peu entre les deux, comme ça?
Oui, je pense que c'est... En fait, avec Johann Sebastian Bach, c'est assez personnel, parce que, bon, je dois dire, vraiment, c'est quelqu'un de la famille pour moi, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui... Et pour ma famille en Argentine aussi, quand je l'ai découvert, j'étais enfant et il n'y avait aucun espace chronologique entre lui et moi. J'ai parlé tout de suite avec mes parents de ça, j'avais 7 ans, de l'importance de cette musique pour moi. Je pense que cette force est restée toujours et quand il y a une démarche comme celle-ci, c'est simplement de pouvoir connaître aussi l'être humain, c'est-à-dire Bach, m'approcher à lui en train de s'amuser avec sa famille, en train de faire de la musique avec ses enfants, en train de avec son librettiste, en train de voir comment il peut se défendre aux critiques, c'est-à-dire un être humain qui souffre aussi parce que son art n'est pas accepté. Et ce n'est pas les Bach qu'on est habitué à montrer, en fait. Et on sait très bien que Bach, il a menti, il a falsifié des documents, même à la fin de sa vie, pour faire dire à quelqu'un d'autre des choses qu'il n'avait pas dit, tout pour la souffrance qu'il avait de ne pas être accepté comme un grand compositeur. Alors, connaître les musiciens sous cet aspect me fait connaître aussi beaucoup toute l'autre musique, et avoir une autre vision sur toute l'autre musique qu'aujourd'hui on connaît. Je pense que pour moi, c'est cette mission, comme vous l'avez dit, c'est assez naturel. Je ne l'ai jamais réfléchi comme ça, mais en fait, c'est un besoin très grand de partager quelques découvertes avec les publics, que je sais qui est avide toujours de voir des autres regards sur ces grands monstres de la musique.
On a même l'impression que vous essayez aussi finalement dans votre démarche, la façon dont vous en parlez, presque de gommer l'espace-temps. C'est-à-dire, vous dites, oui, c'est comme un membre de ma famille, c'est des œuvres qui ont été encore écrites il y a plusieurs siècles. Aujourd'hui, on est en 2012, vous êtes quelqu'un du 20e, 21e c'est siècle. Vous amenez tout ça au 21e siècle. Oui. On n'est pas dans un musée, on n'est pas dans de la naphtaline à toucher des choses complètement. C'est important aussi ça pour vous de le...
C'est très très important. Il faut savoir que presque tous les mouvements de musique ancienne aussi a commencé à un moment où les instruments que les gens entendent dans un disque, par exemple, s'ils entendent un clavecin ou un luth, ce n'est plus les clavecins et les luths qu'on entend quand on est en direct. C'est-à-dire c'est un autre instrument. Les compositeurs aujourd'hui, des musiques d'aujourd'hui, savent très bien à quel point un micro peut vraiment falsifier ou.
Comme Bach.
Exactement, un son. Alors, vraiment, ces mouvements de musique ancienne a commencé au moment de la naissance du micro, en fait. C'est des voix comme Alfred Deller ou les cantates par Leonard Hamelin-Cour et tout ce qui ont fait maintenant aussi, c'est quelque chose qui n'est pas. Qui n'est pas en relation avec une réalité. C'est pour ça que j'ai avec une réalité sonore. Les disques n'est plus donc, une réalité sonore et de ce qu'on entend dans un endroit à tel moment. C'est un objet très très différent. Mais il faut savoir aussi, il faut simplement l'admettre parce que nous, comme interprètes de musique ancienne, des fois, et on veut tout faire à l'ancienne, mais avec les éléments qu'on a aujourd'hui, avec les disques comme intermédiaires, et avec les plus beaux micros, jamais on aura un produit sonore et comme à l'époque. Et le public n'est plus celui de l'époque, c'est-à-dire qu'il y a une autre vitesse. J'aime beaucoup voir à quel point, par exemple, on décrit les critiques en Italie contre Mozart, des musiciens italiens contre la musique de Mozart, étaient simplement que lui, il a trop d'idées et il ne les développe pas. C'est-à-dire, c'est exactement c'est là qu'aujourd'hui, on aime de Mozart, c'est-à-dire ses rythmes. Alors, dans l'interprétation de la musique ancienne, c'est absolument évident qu'on transmet un rythme d'aujourd'hui. Mais, par contre, je crois qu'il n'a plus de temps quand on se rapproche de les structures d'une œuvre, c'est-à-dire c'est vraiment les structures polyphoniques des pièces de Bach ou de Giorgi ou de Falvetti nous montrent avec une évidence qu'on ne peut pas fausser à quel point type de communication ou cette façon de parler est aujourd'hui actuelle et comme les physiciens disent. Les temps n'existaient pas. Peut-être, aujourd'hui, on peut découvrir que les temps n'existaient pas. Ça veut dire qu'on est simplement dans une ellipse éternelle dans la chronologie de ce monde qu'on vit et on touche à des périodes dans lesquelles on s'approche ou pas à certains types d'art. Et je pense que c'est ça, interprète, aujourd'hui, on est ça. Ça veut dire qu'on est... On est simplement, on doit avoir une grande conscience de ce que l'art du passé peut donner aujourd'hui, mais en sachant qu'on n'est pas en train de faire quelque chose d'authentique, même si on doit absolument tout connaître. Après, on doit décider sur les traités, sur les instruments, sur tout. On doit tout connaître pour pouvoir les respecter ou pas. Mais au moins, on doit connaître de quelle façon le compositeur a composé une pièce, quels instruments il a utilisé, où il l'a donné, pourquoi, lesquels étaient les objectifs de cette pièce, quel public toucher, avec quel librettiste. Tout ça, on doit absolument les connaître, mais on vit aujourd'hui.
J'ai l'impression aussi que dans votre démarche, c'est important, enfin sur disque et aussi en concert, c'est important de rappeler la relation entre musique sérieuse, musique savante et populaire aussi.
Oui.
C'est quelque chose de...
Oui, je pense que ça peut être... aujourd'hui, on peut parler de ça avec beaucoup de mépris, en fait, dans beaucoup de... C'est-à-dire, il y a beaucoup de gens qui tout de suite entendent musique populaire et ils se méfient. Et ceux qui font de la musique populaire, ils entendent de la musique classique. Et alors, vraiment, pour le baroque, comme vous savez, pas seulement le baroque, la Renaissance, le Moyen-Âge, c'est toujours dans l'histoire, il n'y avait vraiment presque aucune barrière entre les différents types d'art. Alors, on peut, un musicien comme Bach ou comme Monteverdi pouvait passer, Monteverdi passait de l'église au théâtre, il pouvait... d'écrire la mort de Christ, c'est ça, et en même temps un orgasme d'épopée avec Néron, et c'était un curé. En fait, aujourd'hui, c'est inexplicable une situation de ce type. Après, il pouvait aller voir du vin et chanter des madrigaux et faire des chansons d'amour. Alors, il n'y avait aucun a priori par rapport à ça. Aujourd'hui, si un musicien, par exemple, fait un crossover ou va chercher dans des différentes époques, ou tout de suite il est attaqué, quand en réalité, simplement, on est en train de voyager dans le temps, et surtout si on recherche nos origines par rapport à quelques musiques populaires, parce que dans les musiques populaires restent absolument tous les paramètres qui, dans les musiques classiques, sont oubliés ou pas écrits, en fait.
Quels sont les idéaux esthétiques propres aux musiques baroques espagnoles ou latino-américaines.
Latino-américaines. Ouais. Alors, je pense que la musique baroque latino-américaine m'a toujours approché avec ce que j'ai fait avec Gabriel Garrido, surtout quand j'étais assistant de lui pour l'ensemble Lima, m'a toujours approché aux musiques folkloriques d'aujourd'hui en Argentine. Et même les instruments que les jésuites ont laissés au 16e, 17e siècle continuent à être utilisés, les harpes, les guitares, les vihuelas qui ont été transformés en charango, un instrument populaire aujourd'hui. Et les instruments sont là et les types de musique aussi. Ça veut dire que le baroque n'a jamais quitté l'Amérique latine. Parce que c'est à la fin du baroque que l'Amérique latine a commencé à faire une indépendance avec l'Europe. Ça veut dire au début du romantisme. Alors le romantisme n'a pas fait les dégâts qu'il a fait en Europe. Si on peut appeler dégâts en fait. Mais le baroque a continué à vivre jusqu'à aujourd'hui. Et vraiment, c'est vrai qu'en Amérique latine, le baroque, il est vivant. Il est vivant dans la musique populaire. Et quand on fait entendre, par exemple, à quelqu'un qui fait du folklore argentin, on lui fait entendre de la musique espagnole du 16e siècle, pour lui, il dit, il habite où, c'est comme si il est où, je peux aller le visiter. C'est-à-dire, il n'y a pas une... Et alors, c'est là, ça nous fait croire à que vraiment, il y a une liaison constante dans les langages de l'art à travers les temps. Et c'est intéressant à les rappeler.
Mais pour vous, je crois que c'est même commencé très tôt. Je crois que votre père, j'ai vu une interview où vous disiez que votre père écrivait, composait des petits madrigaux. C'est vrai, c'est une légende, c'est la vérité.
Non, c'est pas des petits madrigaux, en fait. C'est le père de Cavalli qui composait des petits madrigaux. Mais mon père composait des chansons, pas des madrigaux. C'est-à-dire des sortes de madrigaux. C'est-à-dire qu'il est toujours pour chaque acte de ma vie, pour ma sœur ou pour moi. Ma sœur est danseuse étoile à Wiesbaden, en Allemagne. Pour nous deux, toujours, il a composé quelque chose. C'est-à-dire que chaque acte de notre vie, depuis qu'on a conscience, était associé à une chanson. Et même aujourd'hui, s'il la chante, on fait un voyage grâce à la mémoire de ces chansons. Alors, c'est évident que plus tard, pour nous, tout acte musical, c'est ça, en fait. C'est-à-dire que ça a un sens avec la mémoire et avec les émotions. C'est impossible, sinon.
C'est à ce moment-là, vous pensez que vous êtes... tombé amoureux de l'instrument vocal, de la voix?
Oui, sûrement, sûrement. Il chantait sûrement avant que je naisse, en fait. Mais la voix, de toute façon, c'est avec la fragilité qui touche au-delà l'âme humaine. Je pense que c'est vraiment l'instrument qui nous met le plus en contact, mais dans toute la civilisation en fait du monde, c'était comme ça en fait. La musique instrumentale jusqu'à il y a très peu de temps, on n'était pas indépendant en Occident de la musique vocale en fait. Très peu de temps, je vais dire 16e siècle, où on écrivait encore que les instruments devaient simplement imiter la voix, les consonnes et les voyelles de la voix humaine, mais n'était pas considéré comme un élément indépendant à la voix. Alors, j'ai continué à croire à cela parce que je pense que c'est que la technique des instruments et la mécanique a fait plus tard, et surtout des compositeurs qui ont peu pensé à la voix et aux possibilités de la voix humaine, ont fait vraiment s'éloigner l'écriture musicale des possibilités de la voix. Et ça, je trouve un tout petit peu dangereux parce que même notre cerveau est associé à la voix humaine pour la compréhension d'une œuvre.
Qu'est-ce qui vous a poussé à choisir le piano, le clavecin, l'orgue, ces instruments-là, quand vous avez attaqué, pourquoi pas le chant, pourquoi pas, pourquoi...
Bon, je pense que c'était Bach, c'était Bach. L'importance des Bach, et surtout, bon, ma grand-mère m'offrait en Argentine, toujours chaque mardi, je me souviens, un compositeur et un livre avec ces compositeurs. Et vraiment, quand j'ai reçu Blandine Verlet, par exemple... des ouvertures à la française de Johann Sebastian Bach et plus tard Gustav Leonhard avec Frescobaldi, je ne pouvais pas croire la beauté de cet instrument et savoir qu'en Argentine je n'allais pas trouver un instrument comme ça. C'est ça aussi, ça veut dire les défis de pouvoir de pouvoir une fois m'approcher à ce monde et venir en Europe comme je fais plus tard.
Vous aviez des idoles au tout début quand vous étiez petit? Vous avez cité le nom de Gustave Léonard.
Ah oui, Gustave Léonard. Je pense que c'était jusqu'à que je suis venu en Europe.
Il y avait son poster dans votre chambre. Il n'y avait pas Maradona, il y avait Gustave Léonard.
Absolument, oui, c'est ça. Oui, Gustave Léonard, je me souviens les chocs que ça m'a fait maintenant qu'il n'est plus là. Mais et lui, ce que je faisais, comme il n'y avait pas de professeur, c'était écouter ses disques et essayer de transcrire tout de suite exactement ce qu'il faisait. Ce qu'aujourd'hui, ça me semble tout à fait étrange. Mais je croyais à chaque articulation, à chaque liaison des notes dans un capriccio de Froberger, par exemple. Alors, je me souviens, ou dans les passions de Bach, alors, c'était des idoles, Marta Argerich, toujours l'aider, c'est-à-dire les musiciens argentins comme Argerich, Barenboim ou Carlos Kleiber, étaient quand même des personnalités qui m'ont beaucoup, beaucoup influencé, parce que j'ai continué à admirer chacun dans son domaine. Mais j'ai admiré William Christie, que j'allais entendre au Théâtre Colón de Buenos Aires, Saval aussi, et Philippe Hervég, Gustave Léonard, que j'ai entendu quand j'avais 10 ans jouer le clavecin. Alors je pense que c'est tous, ils venaient en Argentine et on avait la chance de les entendre là-bas.
Quand vous êtes arrivé en Europe, ça a été pour étudier, vous étudiez à Genève, vous êtes maintenant enseigné aussi au conservatoire. Ouais. Les premiers souvenirs que vous avez en arrivant là-bas par rapport à la façon d'aborder la musique, tout ça, ça a été une sorte
alors
de gros
pour
chamboulement.
Moi, c'était bon, déjà les contacts avec les instruments, c'était très fort de pouvoir avoir des instruments de qualité. Et après, Christian Jacoté, en fait, c'était pour moi une grande personnalité, ma professeure, qui m'a influencé beaucoup parce que je connaissais au Brésil et en Argentine, il y avait des piratages de l'œuvre complète des Bach, qui étaient vendues partout. Et ça n'existait plus maintenant. Mais on avait ces disques, les collections complètes, et on entendait Christian Jacoté, et je l'admirais beaucoup. Je ne savais même pas si c'était un monsieur ou une dame, Christiane, et je suis arrivé à Genève et j'ai fait l'examen, je ne savais pas à qui regarder en fait. Mais là, je pense que quand j'ai entendu à elle jouer par cœur les clavecins bien tempérés, dans une soirée, à 20 ans, l'admiration reste pour toujours en fait. C'était une grande dame du clavecin en fait.
Quand vous êtes passé d'élève à enseignant, l'enseignement, la transmission, c'est quelque chose qui fait partie, c'est un tout dans votre vie musicale?
Oui, ça serait impossible d'imaginer ce que j'ai fait sans cette transmission. Et surtout qu'aujourd'hui à Genève existe la classe des maestros al cembalo, où j'étais le premier élève, parce que le conservatoire de Genève a cette qualité de pouvoir inventer des cours qui n'existent pas en fait. Je me souviens que Philippe Dinkel, le directeur, elle m'avait demandé comment doit s'appeler un diplôme de ce que vous êtes en train de faire, diriger, jouer les clavecins, jouer l'orgue, maestro al cembalo. Alors, très bien, maestro al cembalo. Et plus tard, quand la classe a été vraiment créée, ils m'ont invité à la diriger. Et aujourd'hui, il y a 6 maestri al cembali, 6 diplômes des élèves qui dirigent de l'opéra, qui dirigent aussi à l'église. Alors, cette transmission, pour moi, elle est absolument indispensable, parce que chaque fois que je fais une production, je reviens et je suis différent, en fait. J'ai une autre chose à transmettre aux élèves. Je ne suis plus le même.
Certains musiciens interviewés ici ont parfois dit que c'est justement quand ils ont commencé à enseigner qu'ils se sont réalisés les ruptures qu'ils ont pu avoir avec les maîtres passés, couper le cordon avec les maîtres, les influences. À partir du moment où on devient soi-même une sorte de transmetteur, est-ce que ça vous a fait vraiment changer?
Vraiment fait un choc dans ces
dans ce sens-là.
C'est plutôt dans la conscience des paramètres desquels quand on est interprète, des fois on n'est pas conscient en fait. Au moment de transmettre, tout doit être conscient et mesuré et des fois même on doit savoir quoi pas dire surtout. Et quand dire non, quand dire oui, et surtout comment conseiller avec beaucoup de tact, mais aussi avec beaucoup de rigueur, comme avait ma professeure. Alors je pense que c'est surtout ça, la conscience de ce qu'on n'arrivait pas à mesurer avant d'enseigner. On doit tout pouvoir transmettre à travers la parole, à travers l'exemple, et on doit savoir le faire tout de suite et sans faille, parce que sinon on est repéré à l'instant.
Quand vous avez fondé la Capella Mediterranea, c'était une idée que vous aviez depuis longtemps, ça c'est arrivé naturellement, il y avait...
Oui, Capella Mediterranea, c'était en 1999.
Déjà.
C'était un concert, je me souviens, à la Fondation Gulbenkian de Lisbonne, que normalement devait diriger un autre chef. J'avais trouvé ces concerts parce que je suis allé chercher des manuscrits de musique portugaise qui m'intéressent beaucoup. Ce chef n'a pas pu venir, alors j'ai fondé l'ensemble pour cette occasion. Et plus tard, avec Ambroné, en fait, et tout ce qui Ambroné m'a donné comme confiance pour créer tous nos programmes, on a pu développer le but de Capella Mediterranea, qui c'était de redécouvrir justement des pièces qu'aujourd'hui on ne connaît pas, surtout du sud de l'Europe. Zu Sprunge, so wackelt das Herz. Zu Tanze, zu Sprunge, so wackelt das Herz. Zu Tanze, zu Sprunge, zu Tanze, zu Sprunge, zu Sprunge, zu Tanze, so wack, hack, 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 das Herz. Zu Tanze, zu Sprunge. Zu Tanze, zu Sprunge, so wackelt das Herz. Zu Tanze, zu Sprunge, so wackelt, so wackelt das Herz. Zu Tanze, zu Sprunge, zu Tanze, zu Sprunge.
Comme ça, dans ces périodes un peu difficiles par rapport à l'industrie du disque, par rapport à où on sait que la musique classique, la musique baroque n'a pas toujours des moyens incroyables pour se développer, pour organiser des concerts, etc. Avoir justement une sorte de maison, de refuge comme Ambronay, c'est quelque chose d'important,
oui.
Essentiel.
C'est très très important, c'est une fortification émotionnelle, et loin de tout, très près de où j'habite aussi, à Genève. Et vraiment, la capacité qu'il y a Ambronay pour faire confiance à des folies, en fait. C'est quand j'ai dit qu'on allait faire une pièce autour du déluge universel d'un tel Falvetti, je me souviens qu'on était réunis autour d'une table et quelqu'un a fait une blague, est-ce qu'on peut mettre Vivaldi? Et après on verra si le public aime, au moins on aura la salle pleine. Et maintenant, aujourd'hui, quand on sait qu'il y a plus de 12 000 disques vendus d'un grand inconnu, on ne comprend pas. Oui, oui. Mais on se sent très bien de pouvoir partager. Mais j'avoue que chaque fois que j'ai fait un disque, je me vois moi quand j'aurai 85, en fait, en train de l'écouter. Et quand j'enregistre un disque aussi, et voir s'il a pu survivre, en fait, à moi-même. Il a pu survivre à mes propres émotions, en fait. Et je sais que quand j'entends un disque que j'ai fait il y a 300 maintenant, j'ai fait un voyage aussi dans les émotions des musiciens, parce que chacun apporte avec sa voix une richesse incroyable. Et les voyages, c'est tellement grand que je pense que le public, il les ressent, en fait. Ce qu'on a fait avec Barbara Strozzi, par exemple, avec les madrigaux de Barbara Strozzi. Ça reste quand même un disque que j'aime beaucoup pour ce qui, pour l'atmosphère qui s'est créée. Alors c'est là et un tout petit peu atemporel. Et je pense que c'est ça qu'on recherche aussi dans nos réalisations, que dans la mesure du possible, elles ne vieillissent pas. C'est ce qui cherche n'importe qui, en fait.
C'est facile, ça?
Non, c'est pas facile. Mais je pense que les émotions, comme j'ai dit, au-delà des imperfections, peuvent voyager dans le temps. Ça veut dire qu'on peut entendre un disque de 1920 d'un chanteur qui aujourd'hui, on ne tolère même pas l'intonation, on ne tolère pas le tempo qu'il prend et on est ému. Alors ça montre qu'il y a des paramètres qu'on ne maîtrise pas, qu'on n'arrive pas à mesurer. Parce que si on est ému, c'est pas seulement intonation, tempo et connaissance de style.
C'est aussi dans ce genre de démarche, par exemple, que vous faites des projets comme Monteverdi Piazzolla, par exemple, aussi.
Monteverdi Piazzolla était, au contraire de ce qu'on peut penser, que c'est un projet pour vendre plus et tout ça. Je pense que c'est au contraire. C'est-à-dire, c'est un projet assez sombre à l'origine. En fait, c'est la mémoire de nos grands-parents, en fait, et à quel point on peut retrouver dans une musique comme le tango, qui est encore vivante, mais est en train de mourir. Pourquoi? Parce qu'on se rend compte que, par exemple, Piazzolla est mort, et aujourd'hui, tout le monde joue Piazzolla, mais personne ne peut jouer Piazzolla comme Piazzolla. C'est-à-dire, on comprend, grâce à lui, qu'un art musical peut mourir avec l'interprète. Et comment Chopin, peut-être sa musique est morte avec lui. C'est-à-dire, on ne va jamais savoir et comment lui il jouait. Aujourd'hui, c'est simplement notre interprétation et tout ce qu'on fait, c'est comme ça. Mais le tango nous permet de comprendre, bon, c'est comme ça que se sont connus mes grands-parents aussi en dansant du tango, c'est pour ça que je suis là, que j'existe. Mon père aussi a chanté beaucoup de tango.
Et c'est une musique qui a une valeur particulière, hein. Alors, c'est dans l'ADN.
C'est dans l'ADN.
C'est plus qu'une musique,
oui,
d'une certaine manière.
C'est plus qu'une musique, oui.
Il n'y a pas vraiment d'équivalent dans tous les pays pour tous les types de musique, peut-être.
C'est,
enfin, il y en a, mais...
En fait, c'est plus qu'une musique parce que c'est vraiment de la poésie mise en musique, exactement comme c'est arrivé au début du XVIIe siècle. Ça veut dire que l'Argentine, c'est un pays assez neuf. Tous les pays européens ont beaucoup, mais l'Argentine a 2 siècles d'histoire depuis sa fondation, en fait. On vient de fêter les bicentenaires. Et c'est un pays très très jeune. Et le tango forme, c'est vraiment nos madrigaux. Et rencontrer un bandoneoniste français qui joue le tango et qui connaît tous les traités, qui connaît toutes les façons de jouer d'exactement tel bandoneoniste à tel endroit à Buenos Aires, un tel club de vin, il jouait de cette façon avec cet tempi. Moi, je me suis senti reflété dans lui parce que c'est exactement ce que j'ai fait comme argentin avec la musique européenne. Ça veut dire la grande curiosité. Et lui, il l'a fait depuis Clermont-Ferrand avec notre musique, qui est en train de mourir parce que j'ai dit, c'est-à-dire, elle est en train de. Il n'y a pas vraiment de création, c'est-à-dire de grands créateurs dans cette musique. C'est pour ça que je sens que d'une certaine façon...
Vous pensez qu'elle est juste réappropriée comme une sorte d'objet de musée ou quelque chose comme ça? Quand on voit la jeune génération, des Cristobal, Repetto, ce genre de personnes, c'est...
Oui, c'est ça, les risques du tango, c'est qu'ils deviennent musique folklorique. Ouais. Et c'est ce que Piazzolla n'a pas voulu. Mais Piazzolla a été d'une certaine façon le Monteverdi, c'est-à-dire qu'il a tout détruit de tout coup, et après il y a un vide tellement grand que même ses élèves n'arrivent pas, comme Cavalli avec Monteverdi, n'arrivent pas à l'imiter. Bon, c'était un voyage vraiment très très fort, parce que bon, le bandoneoniste, une fois, William Sabatier m'a dit: je ne sais plus qu'est-ce que je suis en train de jouer, si Monteverdi ou Piazzolla pendant le spectacle. Et ça nous arrivait à tous, vraiment, on a retrouvé ça, parce que on a retrouvé aussi pourquoi on est venu faire de la musique baroque ici, c'est-à-dire qu'on a remis en question absolument tout ce qu'on fait, et on est plus fort après.
quels sont vos projets? Je crois qu'il y a un disque qui devait être fait ou qui a été fait avec Anne-Sophie Van Otter et oui. Sandrine Piau.
Exactement, on vient d'enregistrer cet été, on a enregistré en Suède dans un auditorium formidable avec Anne-Sophie Van Otter, avec laquelle j'avais déjà collaboré. Capella Mediterranea avait fait un concert au théâtre Champs-Élysées, on était au Bigmore Hall de Londres aussi. Grâce à que les arts florissants m'avaient contacté pour que je travaille les styles français avec elle avant qu'elle enregistre avec William Christie un disque. Mais on est tombé amoureux, artistique, avec elle et on a dit on doit quand même faire un travail ensemble. Vraiment, on a réfléchi beaucoup, beaucoup, parce que c'est vrai qu'Anne-Sophie Van Otter passe beaucoup de temps à réfléchir et à discuter sur quoi chanter, c'est-à-dire c'est vraiment admirable qu'un chanteur ait choisi tellement bien pendant toute sa carrière le répertoire qu'elle devait chanter et qu'elle ne devait pas chanter surtout. Alors on a fait un choix des pièces du XVIIe siècle et aussi autour des reines suédoises, de Luigi Rossi, de Francesco Provenzale, et Monteverdi, l'Incoronazione di Poppea et Cavalli, des pièces inédites, même un Lamento d'Oriclea extraordinaire. Mais bon, mais travailler avec elle, c'est un rêve que je ne vais jamais pouvoir oublier, et les musiciens de mon ensemble non plus.
D'autres projets au disque dans les mois qui viennent, ou pour l'année prochaine déjà?
Alors, pour l'année prochaine, il y a déjà... Bon, on vient d'enregistrer Monteverdi Piazzolla, en Suisse, qui va sortir plus ou moins en même temps que les disques d'Anne-Sophie Van Otter. On a enregistré un grand opéra, le premier opéra qui a été fait en Belgique, Ulysse de Zamponi. Et l'année prochaine, Nabucco, retrouvé de Falvetti, du même compositeur du Déluge universel. Nabucco a été retrouvé en Sicile. Il y a des gens qui pensent que je l'ai composé moi, mais non. Il existe un Nabucco de Falvetti qui a été retrouvé dans un couvent à Naples. Et par Niccolò Macavino, un musicologue italien formidable. Alors on verra cette création le 14 septembre au Festival d'Ambronay. Et un mois plus tard, une nouvelle version du Requiem de Mozart avec, comme vous savez, en 1985, il y a eu des extraits d'un Amen qui a été retrouvé ou un Lacrimosa reconstruit par un musicologue. Mais je dois dire que je ne savais pas à quel point Mozart avait beaucoup écrit de ces requiems. Généralement, on dit que non, mais les parties vocales sont presque complètes et il a laissé la trace partout. Alors, on va faire avec le chœur des Chambres de Namur et New Century Baroque Orchestra. C'est un orchestre qui est basé maintenant à Ambronay, qui fait partie de la. Qui était avant l'orchestre baroque des jeunes européennes. Alors avec eux, on va créer ce requiem et on a enregistré le concerto pour clarinette avec Benjamin Dichtlens, qui est un musicien de Philippe Herweg, absolument admirable. Alors pour 2013, ça sera le Vespre de Monteverdi.
Quand vous ne donnez pas de cours, quand vous enregistrez pas tout ça, il vous reste du temps pour écouter de la musique des autres ou de...
Ah oui,
vous
oui.
Écoutez
oui.
Beaucoup de disques, vous écoutez la radio, oui. Ou quand en vous fait, allez au concert.
J'écoute surtout pas mes disques, parce que, j'imagine. Bien sûr. Mais j'écoute beaucoup de musique, beaucoup de styles. Oui, j'aime beaucoup connaître qu'est-ce que les gens aiment aujourd'hui et pourquoi.
Qu'est-ce qui vous a marqué récemment dans vos dernières écoutes? Il y a des disques récents ou peut-être anciens qui vous
ont... Bon, dernièrement, j'ai eu... Parce que le jazz, c'était pour moi quelque chose dans lequel je ne voulais pas entrer.
Ah, c'est comme une boîte de Pandore.
Oui, c'est ça. C'était difficile. J'ai compris plus tard, c'est trop technique, mais j'ai compris que attaquer les dissonances, les 9e, les 7e, les 4e, les 2e, tous les musiciens savent de quoi je parle. Mmh. Et les attaquer d'une façon tellement gentille, tellement souple, cool, ça m'énervait. Ça m'énervait et toujours, et ça m'est... Maintenant j'ai compris pourquoi en fait. Et je pense que justement, le jazz qui est né d'une culture africaine qui n'avait pas de relation avec cette dissonance, qui pour nous était toujours forte. A fait que c'est un langage qui n'a absolument rien à voir avec le baroque, mais oui dans l'improvisation, c'est-à-dire dans les types de chiffrage, dans la liberté, mais dans les langages purs de contrepoint harmonique, pas du tout. Alors c'est maintenant que je me suis submergé à moi sur la fichelle
Donc toi du jazz vocal, on en revient toujours à la voix.
Ah oui, la voix, vraiment.
Pas de musique instrumentale.
Pas cinq corps. Mais la fiche est là, ça sera pour plus tard. Oui, oui. Mais il y a beaucoup d'amis qui essayent de
vous transmettre le virus.
C'est ça.
Merci beaucoup, Leonardo García Larcón.
Merci beaucoup.
Rencontre par Marc Zisman.